Très bien, donc aujourd'hui nous continuons nos conversations sur l'être psychique et sur la relation que nous entretenons éventuellement avec notre être psychique. Aujourd'hui nous recevons Bhagwandas. Donc Bhagwandas, merci d'avoir accepté notre invitation.
Plaisir.
Donc, pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet, parce qu'on en a parlé un petit peu aussi avant, pourrais-tu nous donner quelques idées sur comment se passe ta relation, toi, avec ton être intérieur, ton l'être psychique tel que l'appelle Sri Aurobindo et Mère?
Aussi loin que je me souvienne, quand j'étais enfant, je vivais des états qui étaient des états de bien-être, des états que je pense la majorité des enfants vivent. Et par contre, moi, j'avais une sensibilité tout de même extrême et je vivais les choses très intensément, surtout quand j'étais seul avec la nature. Et donc, tout au long de mon enfance et mon adolescence, il y a eu des moments privilégiés où je sentais ce bien-être que je reliais d'ailleurs parce que je suis né dans un milieu chrétien en fait avec donc toute la notion de l'âme et de tout un monde spirituel. Donc dans ma conscience d'enfant et d'adolescent, je le reliais en fait à ce monde de l'âme
Ce monde de
avec
l'âme.
un côté je dirais un peu mystique. Une façon de, comme une exaltation qui survenait dans certains moments, justement, de relation avec la nature et avec mon corps. Je faisais beaucoup de sport, beaucoup de judo, et à ce moment-là, je me rendais compte que quand j'étais vraiment épuisé, cet état revenait beaucoup plus facilement.
D'accord.
Donc, ça, c'était mon vécu, mes constatations, ma compréhension un petit peu des choses. En relation plus avec le domaine de l'âme. Parallèlement, il y avait quelque chose de très très fort en moi qui essayait de comprendre le mystère de la vie, de l'incarnation, qu'est-ce que je faisais sur cette planète. Donc j'ai beaucoup travaillé la psychologie, Jung, et
Alors plus tard, du coup.
plus tard, hein, dans mon adolescence, mais assez jeune, en
Ouais.
fait, 13-14 ans. Et cela m'a conduit, le dernier livre que j'ai lu, c'était à l'époque où je faisais mon service militaire et c'était L'homme à la recherche de son âme de Jung.
OK.
Donc c'était un livre qui m'a vraiment mis dans cette atmosphère très profondément. Pourtant c'était dans un contexte très particulier, hein, le service militaire, mais
Ça te permettait peut-être aussi de prendre du champ avec ce que l'environnement militaire t'invitait, quoi.
oui, tout à fait. Ça rétablissait un équilibre. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert l'aventure inconscience de
De
Sadhpreme, donc Sri
Sadhpreme.
Aurobindo ou l'aventure inconscience.
D'accord.
À l'époque, c'était à Paris, chez Gilbert Jeune, et il y avait un livre de Sri Aurobindo, c'était ce livre-là. Et donc, à l'époque, quand j'ai vu conscience, ce terme, conscience, c'était quelque chose qui était très, très fort en moi, je posais beaucoup de questions, mais à l'époque, personne ne répondait. Qu'est-ce que c'est que la conscience? C'est un phénomène mental. Et j'avais trois sœurs qui faisaient psycho, donc en fait les réponses n'étaient pas du tout satisfaisantes. Donc là, quand je vois Sri Aurobindo ou l'aventure de la conscience et de la joie d'ailleurs, c'était les premiers, hein, c'était le dernier vers de Savitri, ça m'a interpellé. Et donc j'ai commencé à lire. Et à ce moment-là, ça a été vraiment le grand choc de réaliser, de comprendre que la conscience était quelque chose d'autre que ce que je m'imaginais. Et c'était la réponse à ma question que je véhiculais avec moi depuis pas mal d'années.
Donc c'était comme une, on va dire une confirmation intérieure par ce que tu lisais de quelque chose que tu expérimentais déjà depuis tout jeune.
Voilà, à travers différentes formes, évidemment, et à travers différents états, mais toujours un peu avec cette autre dimension. Qui nous met dans un état particulier, et cet état particulier, pour moi, je relie à la conscience. Mais en effet, la réponse de qu'est-ce que la conscience n'était pas mentalement compréhensible pour moi. Et là, tout d'un coup, ça devenait accessible. Et quand j'ai ouvert l'aventure et conscience, je suis tombé sur ce passage de l'être psychique. Et la première phrase, c'était quand on découvre l'être psychique, la première expérience est d'avoir été, d'avoir toujours été et d'être pour toujours. Et ça, ça a été quelque chose d'énorme pour moi. Ça a été une prise de conscience qui résumait d'un seul coup tout ce mystère ou une grosse partie du mystère que représentait la conscience. Et cet état hors du temps, tout d'un coup, cet état que l'on ressent quand on est dans un état de bien-être qui n'est. Donc, le déclic s'est fait vraiment à travers ce passage de l'aventure de la conscience sur l'être psychique, qui est d'ailleurs fantastique. Hein. Je conseille à tous les gens de le lire.
Alors, c'est le livre, c'est Sadprem, hein,
c'est Sadprem
qui a écrit ce livre, Sri Aurobindo, l'aventure de la conscience. Donc, on affine de plus en plus, en fait, tu affines de plus en plus ton sujet, des états extatiques, formes d'extatique, en fait, on peut dire, ensuite la conscience et l'être psychique.
Voilà, c'est ça. Mm-hmm. Et donc, une forme de réponse tellement puissante qu'à ce moment-là, je sentis que ma vie basculait et que j'étais sûr que je devais partir dans cet endroit où il y avait cet ashram de Sri Aurobindo et donc avec tout cet enseignement. Et là, ça a été vraiment le choc. J'ai su que mon destin allait me conduire là-bas et trouver des réponses là-bas.
Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est le premier événement significatif de ton existence où il y a un avant et un après? Autant on peut dire précédemment, c'était des états vécus, mais sans forcément mettre un nom dessus, hein, une sorte de recherche. Oui. Et là, c'est
clair. Oui, vraiment, c'est ça. Oui. Absolument. Il y avait tout d'un coup une prise de conscience, une compréhension mentale, ce qui me manquait en fait, parce que ça c'était relié à un monde de l'âme, comme on connaît dans toute la spiritualité judéo-chrétienne. Bon, tout ça, c'était pas satisfaisant du tout. Et puis le fait aussi d'avoir à quitter son corps pour rejoindre ce monde de l'âme et après la mort. Bref, tout ça, ça me paraissait pas cohérent.
Donc là, on est dans les 18-20 ans, c'est ça?
Oui, 20 ans, 22 ans en fait. Hein.
D'accord. Et cette compréhension, cette certitude, elle s'est accompagnée aussi d'une forme de joie, de certitude.
Parce que énorme. Mais c'était plus qu'une joie, c'était comme une espèce d'exaltation, on peut dire. Exaltation et en même temps avec une énergie d'action énorme. Parce que à ce moment-là, j'ai su que j'allais partir, que toute ma vie allait s'organiser autour de quelque chose de totalement différent qui allait me permettre de cheminer par rapport à la question fondamentale qui était en moi depuis tant d'années, en fait.
Avec tous les aspects pratiques.
Avec tous les aspects pratiques.
Il fallait partout quitter, partir en Inde.
Exactement, exactement. Okay. Donc, il a fallu que se passe encore 2 ans. Mm-hmm. Et plein de choses, j'ai eu, en fait, une chose qui est tout de même importante à signaler à la suite de ça, parce qu'on sait que quand on rentre dans ce monde, il y a tout un phénomène de synchronicité qui s'opère. À partir de là, j'ai eu des synchronicités qui sûrement devenaient des événements beaucoup plus conscients, qui me donnaient des indications sur justement le chemin, le cheminement que je devais suivre pour pouvoir réaliser en fait cette prise de conscience. Donc un fait qui s'est passé tout à fait étonnant, j'étais encore en train de faire mon service militaire, j'étais en fausse permission, c'était un mois de décembre, je reviens sur Paris et là j'entends en traversant le pont de la Seine, le pont Mirabeau, j'entends au secours dans la Seine. Et donc là, il est 1h du matin. Je fais ni un ni deux, je réfléchis pas, je cours, j'enlève ma capote, la capote militaire, mais j'enlève mes chaussures et je plonge. Et j'essaie de sauver la femme qui était en train de se noyer. Donc ça a été une expérience extrêmement forte. Ça, j'ai failli laisser ma vie. Hein. D'ailleurs, j'étais une extrémiste repêchée par les policiers de l'époque. Mm-hmm. Et avec la femme que j'ai tout de même réussi à sauver.
D'accord.
Et Et le matin, je me suis réveillé à l'hôpital. Bon, bref, il y avait tout un ensemble de choses, les photographes et tout ça. Parce que, bon, c'était un événement un peu particulier. Je le dis parce qu'à la suite de ça, j'ai vu l'absurdité du système dans lequel je vivais. J'ai été décoré du sauveteur de la ville de Paris, à travers ça, et en même temps, j'ai été mis en prison pour fausse permission. Donc, les
Fausse
deux.
permission pour nos auditeurs, c'est qu'en fait, tu n'avais pas le droit de partir, mais tu étais quand même parti, c'est ça?
Voilà,
Tu faisais le
exactement. Ce qui
mur.
m'arrivait assez souvent, d'ailleurs. Mais
D'accord.
là, cette fois-ci. Et là, ça a été encore une nouvelle prise de conscience que j'étais dans un système totalement absurde, qui ne correspondait pas du tout aux valeurs que je ressentais profondément. Et donc ça a donné vraiment une réalité encore plus concrète à ma volonté
À ton désir de
à
partir.
mon désir de partir, mais pour suivre ce chemin vers la conscience et vers tout la compréhension en fait de ces phénomènes qui m'intriguaient au plus haut point et qui étaient
Donc, est-ce qu'on peut dire aussi plus de compréhension sur plus de clarté ou d'authenticité ou de vérité? Est-ce qu'on peut englober tout ça là-dedans? Parce que le monde absurde, c'est aussi, on cherche un monde qui ait plus de sens, en fait, non?
Oui, alors justement, c'était, je voyais là la contradiction totale d'une société et d'un système qui n'avait pas de cohérence, en fait. Alors, l'histoire derrière ça était intéressante parce que du coup, j'étais mis un mois dans le Mont-Valérien en prison militaire, hein, c'était pas les conditions. Et j'ai réussi à passer mon aventure de la conscience. J'avais avec moi mon livre et j'ai vécu un mois absolument fabuleux où, comme j'étais seul dans cette prison, j'ai pu vivre des expériences vraiment tout à fait transcendantales, on peut dire.
Ok,
Donc
donc
expérimenter ce qui était dans ce livre d'aventure de la conscience, dans une certaine mesure et à l'échelle de ma compréhension.
Est-ce qu'on peut dire que l'isolement, en fait, de cette sanction militaire t'a permis, en fait, de rentrer complètement dans ce livre et de pouvoir, en fait,
Exactement, exactement.
t'identifier complètement à ce chemin. Donc tout a concouru finalement.
C'est ça, et c'est pour ça que j'ai dit les synchronicités. J'ai compris que cette chose qui paraissait aberrante avait un sens profond et me permettait en effet, d'aller beaucoup plus loin dans cette expérimentation de ce que Saprem a raconté dans l'aventure de la conscience et du yoga intégral de Sri Aurobindo et de mer. À la suite de ça, il m'a fallu 2 ans encore pour finaliser certaines choses, travailler, prendre un peu d'argent. Et un beau jour, donc il y a eu mai 68 qui est arrivé, à laquelle j'ai beaucoup participé. Et quand j'ai vécu un peu la reprise en main par le côté politique de mai 68, donc la fin d'une belle histoire en fait, très intense, j'ai décidé de partir. Tout s'est mis en place, encore une fois, à travers des rencontres et
Mais
des...
c'est aussi à cette époque-là, on divère un petit peu, mais c'est intéressant, mais c'est à cette époque-là aussi que Mère avait fait son appel à tous les gens de bonne volonté, non?
Exactement,
Oui.
exactement. Et en fait, ce qu'on a appris après, en arrivant, et là je fais un peu une avance dans le temps, c'est que Mère avait dit que mai 68 était une première, pas une première, parce qu'il y avait eu la Révolution française, mais manifestation supramentale.
D'accord.
Et donc, elle était intéressée, et Saprem aussi, de rencontrer des gens qui venaient, qui avaient participé à mai 68.
Ok.
Ça, je l'ai su après, en arrivant là-bas, en fait. Donc voilà, tout s'est mis en place, j'ai trouvé un ami pour partir. On est parti un beau matin de septembre 1968, par la route, avec India, en stop, et... Le voyage a pris 3 mois. Je suis arrivé à Pondichéry après beaucoup d'aventures très intéressantes. Et j'avais besoin d'un dépouillement aussi, de me
Et là, tu as
déconditionner.
rencontré Saint-Prême
J'ai
aussi,
rencontré
c'est
Saprem, en
important. Donc
effet.
l'écrivain qui a écrit
Oui, c'est ça. Bah,
Sri
c'était
Aurobindo.
aussi rencontrer Saprem qui pour moi avait beaucoup d'importance. Et mère, évidemment.
Donc là, on peut dire que le premier contact conscient, c'est-à-dire vécu avec authenticité et avec sens avec ton être psychique, on peut dire date à peu près de cette époque, si on considère que les expériences précédentes étaient peut-être des expériences vagues, ou enfin, je ne sais pas comment tu pourrais
Oui,
décrire.
c'est bien de le préciser parce que ce qui s'est passé, c'est que tel que je peux le comprendre, c'est que quand on est enfant et qu'on est dans un peu conscient de son être psychique, on est dedans beaucoup. On vit les choses assez inconsciemment, on les ressent,
Voilà.
on les vit, on ne peut pas les formuler à soi-même. Mais là, il se trouvait que le mental participait, puisqu'il avait la compréhension, ou une partie de la compréhension, évidemment, de tout d'un coup, et tout se reliait. Donc, c'est comme si cette expérience me donnait beaucoup plus d'acuité, ou donnait beaucoup plus d'acuité à cette présence psychique. Parce qu'il y avait une partie de mon être mental, ma compréhension, et évidemment, la partie vitale de l'énergie, tout ça, c'était prêt à l'action. Donc c'est comme si le psychique avait des instruments pour pouvoir commencer à se vivre d'une façon plus consciente. Tu vois ce que je veux dire?
D'accord. Donc, on pourrait dire une collaboration finalement de l'être psychique avec les outils qu'il a
Voilà.
en sa possession, en fait, pour se manifester.
Exactement, exactement. Et donc c'est là où j'ai commencé à comprendre que chaque expérience de la vie, ou tout au moins chaque élément qu'on vit consciemment, quand il rajoute un élément de notre incarnation mentale, vitale, et qu'il le relie à cette dimension intérieure, donc de l'âme, du psychique, eh bien, l'action prend une toute autre tournure. Et ça justifie en effet ces phénomènes de synchronicité, de rencontre, de un peu ce côté magique qu'on peut vivre quand on est dans une recherche beaucoup plus consciente, intérieure et spirituelle.
Alors, est-ce qu'on peut dire, je vais reformuler, tu vas me dire si c'est correct, est-ce qu'on peut dire que jusque pendant cette enfance, cette adolescence, l'être psychique se manifestait en toi peut-être de manière un petit peu brute, brute de pomme ou brute un petit peu comme ça, et à partir du moment où il y a eu des expériences conscientes, c'est comme si la personnalité reprenait le train en marche pour continuer à construire,
Oui.
ou en tout cas à le redévelopper, ou
L'incarner.
voilà.
L'incarner.
Donc c'est un peu comme si l'être psychique continuait en fait son travail de construction à travers une nouvelle aventure humaine, ou une nouvelle,
C'est
c'est
ça,
ça?
c'est ça. Mais qui était beaucoup plus relié. Donc en fait, automatiquement, d'autres dimensions, ces dimensions de l'incarnation, hein, du mental, du vital, des émotions, pouvaient participer davantage à cette atmosphère ou cette présence psychique qui était beaucoup plus définissable. Parce que ce livre de l'aventure de la conscience, donnant toute cette vision de la compréhension que Schaubindo donne du yoga intégral et de la place de l'âme, du psychique, en fait, d'un seul coup, donne une réalité à ce travail intérieur et à notre incarnation, parce que là aussi, je voudrais tout de même mentionner quelque chose. Tu connais, enfin tout le monde connaît, ou beaucoup de gens connaissent cette phrase « on n'est pas », enfin je cite, mais je ne sais pas si c'est exactement ça, « on n'est pas un être matériel cherchant à vivre des expériences spirituelles, mais on est un être spirituel qui vient pour vivre des expériences matérielles. » Donc, c'est comme si tout d'un coup, on se remet à l'endroit.
Comprends.
Tu comprends?
Je comprends.
Et c'est très important, je crois, à noter ça, parce que on retrouve notre vraie identité,
Alors,
doucement.
est-ce qu'on peut dire que c'est un moment clé en fait dans la vie de chaque individu, quelque part à un moment donné de cette existence, de se reconnecter consciemment à son être psychique, et à partir de ce moment, il y a un nouveau travail conscient de collaboration
C'est
qui se
ça,
fait,
c'est ça.
où une vie peut être inconsciente tant qu'il n'y a pas ce moment, on va dire, clé, hein, qui va
Ouais.
réajuster en fait l'être psychique à la
Exactement,
personne.
exactement. Et ce momentum, si tu veux, ce moment où le monde de l'âme peut commencer à avoir les instruments nécessaires pour pouvoir s'exprimer dans l'incarnation, ben c'est ce qui donne toute une richesse à la vie nouvelle et en fait un développement spirituel, en effet, à un quotidien ou à une vie incarnée, tout simplement.
Donc là, on est encore dans les, tu as 20, 25 ans. Donc à partir de ce moment-là, tu es en Inde, tu résides en Inde, tu rencontres Mère, tu rencontres Satprem, donc est-ce qu'on peut dire que cette construction, ce développement conscient a commencé à partir de ce moment-là? Et où il en est aujourd'hui? Je veux dire, est-ce que c'est une construction consciente qui se fait harmonieusement, qui se fait naturellement, ou est-ce que il y a des va-et-vient? Est-ce que tu peux parler un petit peu de tout ça?
Alors, je relis ça en fait à tout après l'implication dans arriver à Pondichéry, rencontre avec mère, et là réellement j'ai le darshan de mère, donc une expérience vraiment transcendantale que je n'avais jamais connue, jamais eue évidemment, qui me donne à une échelle bien supérieure encore cette capacité de se dire, mais le monde n'est pas du tout ce qu'on croit, en fait. Une présence telle une force d'amour telle qui pénètre à l'intérieur du corps physique, où on se sent transporté dans une autre dimension, aussi bien au niveau du temps que de l'espace. Et là, c'était vraiment le point de, comment dirais-je, de rencontre avec un autre être incarné, qui avait cette dimension absolument fabuleuse de te plonger dans cette réalité-là. C'est-à-dire que ce n'était plus toi qui, par ton cheminement individuel, avait ces expériences et petit à petit comprenait de plus en plus. C'est comme si tout d'un coup, tout ce monde de spirituel, ce monde de l'âme, venait à toi, s'imposait à toi. Et donc ça a été là vraiment le fait de dire si un être, cet être qui est capable, donc en l'occurrence mère, de me transporter dans cet état seulement par une présence physique, ma vie doit être dédiée à ça. Et là c'était vraiment, ça a été vraiment l'affirmation et la compréhension consciente que ma vie basculait dans une autre réalité qui allait être totalement différente. Et en effet cette réalité, par tout un enchaînement de faits et de circonstances, s'est matérialisé très rapidement par le fait de la rencontre avec Roger, qui me dit, après un échange extrêmement riche et intéressant, il me dit, bah, écoute, puisque tu es là et que tu es disponible, pourquoi tu participes pas à la construction d'Auroville? Donc ça a été pour moi un grand oui, et à partir de là, en effet, matériellement, et je dis même au niveau financier, j'ai été pris totalement en charge. Et là, j'avais comme une espèce de nouvelle étape dans mon évolution, où j'ai compris qu'il n'y avait aucun souci matériel quand on se dédiait à ce travail-là.
D'accord.
Je l'ai vécu réellement, hein, il ne me restait plus d'argent. Et à partir de là, tout s'est passé avec une profusion de choses. J'avais tout ce dont j'avais besoin. Et ça n'a pas cessé durant toute cette vie. C'est vrai que...
Alors, si on revient un petit peu à cette expérience avec Mère dont tu parlais il y a quelques instants, est-ce que même si ça va paraître un petit peu mental parce qu'on va essayer de décrire un petit peu avec des mots, mais est-ce que tu pourrais le décrire sur un plan de l'être psychique ou d'un champ psychique dans lequel elle pourrait ou d'un espace ou d'une qualité que comment si on ramène ça à l'être psychique, est-ce qu'il y avait une forme de reconnaissance ou d'aimantation, je sais, comment tu pourrais décrire ça?
Alors, je dirais que, bah, comme tu le sais, en fait, il y a différents plans. Ça débordait le plan psychique. C'était un plan où il y avait la dimension d'abord d'une puissance incroyable. Parce que j'ai vu en mer vraiment ce regard terrible de Kali, qui a vraiment pénétré en moi, qui m'a vraiment, vraiment, une pénétration totale. Plus rien n'était caché, rien. Et après, il y a eu le côté de Lakshmi avec un sourire merveilleux quand l'opération était terminée. Donc j'ai vécu une opération, quelque chose qui m'a mis dans un état, humainement parlant, si tu veux, où j'étais, je pourrais dire comme une opération. On est, on est l'acteur et en même temps le spectateur. Donc le psychique était débordé totalement là. C'était assez douloureux à un moment. Et après une
quand
vague.
Quand tu dis une opération comme une opération chirurgicale.
Oui.
D'accord.
Oui,
ok.
Oui. L'impression réellement que j'étais ouvert en deux.
Oh, ok.
Que je n'avais plus rien. J'étais dénudé totalement. Dénudé. Mise à nu.
Mise à nu. Je crois que c'est l'expression appropriée.
Ouais. Mise à nu. Et donc. À la suite de ça, et c'est là où tout de même, c'est assez étonnant, même pas quelques minutes, une ou deux minutes, puisque je redescendais les escaliers, je venais de vivre donc cette expérience transcendantale, et tout d'un coup, je vois, je sens une pensée qui vient. Donc, il n'y avait plus rien dans ma tête. Et je vois une pensée qui vient, et cette pensée, elle me dit, tu n'as pas eu les réponses que tu attendais. Tu n'as pas eu les réponses que tu attendais. Parce que j'avais formulé une lettre, en fait, avec des questions, qu'est-ce que je dois faire après, tout ça. Une. Et là, une angoisse qui vient, et comme une révolte, je venais à peine de vivre cette expérience. Et là, pendant 3 jours, j'ai vécu une révolte fondamentale, sans a priori aucune raison, que celle de dire d'être pris dans un cataclysme de réaction de mon incarnation. Et j'ai compris que ça, c'était autre chose. C'était comme si, en fait, ma mère m'avait fait rentrer dans tout le mystère de l'incarnation. D'une façon puissante, je dirais presque violente. Et là, je mentalise, hein. Mm-hmm. Mais comme si, en fait, ben, le yoga intégral, c'est ça. Tu peux pas seulement partir dans les... Voilà la réalité de ton incarnation aussi. Ça fait partie de toi.
Donc, en d'autres termes, tu vis au contact de mer une sorte de blanc, hein, de quelque chose
total.
qui une mise à nu complète, totale, qui te laisse complètement nouveau ou complètement différent. Je ne sais pas comment on peut le dire. Tu quittes le darshan. Et là, c'est comme s'il y avait quelque chose tapis derrière
mais
toi
oui,
ou à côté
oui.
de toi qui oui. attend un moment d'incertitude pour refondre sur toi, c'est
absolument,
ça ?
Absolument, absolument. C'est là que j'ai réalisé ce qui est bien marqué dans l'aventure inconsciente, que les pensées, comme Sri Aurobindo le dit, les pensées viennent de l'extérieur. C'est pas nous qui les générons. Mm-hmm. Donc là, la pensée est vraiment venue de l'extérieur parce que c'était vide totalement en moi. Et j'ai réalisé que... Qu'est-ce que c'était que cette force, cette pensée qui venait, qui a créé un tel cataclysme de réaction vitale. Et donc, à partir de là, j'ai commencé à creuser davantage, à essayer de comprendre dans ce cheminement du yoga intégral et de cette descente de la lumière dans l'incarnation, puisqu'en fait, quand on parle du psychique, après, on est obligé de relier ça à tous les autres plans qui sont à coloniser ou les plans qui existent. Qu'on appelle la réalisation spirituelle, tu vois. Donc, il y a la réalisation psychique, après la réalisation spirituelle et la transformation supramentale qui viendra quand elle viendra. Donc, c'est comme si, en fait, les deux se sont joints, le psychique et le spirituel. Parce que je dirais que c'était plus une expérience spirituelle, parce que le psychique, il ne s'exprime pas par cette retraduction aussi brutale.
Ben, cette précision est intéressante, même si personnellement je l'aperçois pas forcément, hein, mais en tout cas, je pense que nos auditeurs, ça leur parlera, parce qu'effectivement, c'est important aussi de pas tout mettre en bloc dans un même terme ou un même mot, parce qu'autrement on se perd dans plein.
Oui, et c'est important de discriminer, de comprendre que tous ces plans-là, en fait, dans ce travail intérieur, ont une richesse et une possibilité qu'il faut que le psychique colonise, en fait, petit à petit, rassemble dans notre incarnation. Et que, à travers ça, on grandit aussi dans notre incarnation. Cette expérience m'a conduit après, une fois que j'étais à Auroville, donc dans les débuts d'Auroville, avec les conditions extrêmement difficiles, où on était profondément incarné, parce que là, c'était contact avec la terre, creuser les trous, planter les arbres, et tous les tâches, très difficile. Donc je pense que cette expérience avec mère et là, ce qui est venu à ce moment-là, c'était pour me préparer à cette expérience, de ne pas rester dans le monde où des petits nuages roses, où tout est bien, tout est beau, tout est... Non. La réalité du monde est celle-ci, et la réalité que tu portes en toi, dans ta nature, est celle-ci. Donc le travail qui va être demandé de faire à travers cette construction d'Auroville est d'abord un travail intérieur, mais d'incarnation. Et c'était ça qui est venu après.
Et puis ça a du sens, je le vois un petit peu aussi dans ta vie, toutes ces expériences d'enfance et d'adolescence qui sont des expériences mystiques, un petit peu extatiques, ensuite ces jeunes adultes d'incompréhension. Donc là, il faut réconcilier tout ça. Oui, tu es dans le monde, il faut travailler, avoir les mains dans la terre, et
C'est
puis.
ça, c'est ça. C'est ça parce que je refusais en fait, même au niveau de l'éducation, des systèmes, tout ça, ça me plaisait pas du tout. J'aimais ma être bien dans mon monde, tu vois. Donc là, c'était tout d'un coup un changement de paradigme, on peut dire.
Alors cette période, on va dire, c'est oui, 22, 25 ans. Et si tu regardes un petit peu en arrière et puis par rapport à aujourd'hui, est-ce que tu pourrais considérer que finalement cet être psychique dont tu as pris conscience à cette époque-là, il s'est petit à petit, à travers les expériences, il s'est petit à petit étoffé, construit, modelé. Comment tu pourrais décrire ça jusqu'à
Écoute,
aujourd'hui?
dans le cheminement cette intégration, on peut dire, des éléments d'expérience et de vécu, il y a eu toute une phase, si tu veux, de la première partie d'Auroville et de mon évolution, qui s'est passée à travers comme une espèce de fascination pour le travail que Mère faisait, ce travail et ayant eu cette expérience qu'elle m'a donnée, j'étais fasciné par le travail qui était en train d'opérer sur son corps, cette descente du supramental, le monde nouveau qui devait venir, qui était là, qui est né, comme elle disait. Et tout ça, c'était comme une attente d'une possibilité fabuleuse. Donc, il y avait cette dimension d'exaltation qui était accompagnée d'une grande difficulté d'incarnation, parce que c'était très difficile de vivre le début d'Auroville, très difficile.
Physiquement, tu veux dire.
Physiquement et psychologiquement, ça, il y avait une pression terrible hein, quand Mère était dans son corps physique. Hein, c'était vraiment il y avait beaucoup d'expériences, quelquefois très douloureuses, mais en même temps des moments d'extase. Il y avait une intensité extrêmement puissante. Donc le psychique, la connotation psychique, pour te dire, voilà, un jour j'ai eu une expérience. C'était un peu dans les tout débuts et comme j'avais eu le privilège de la rencontrer assez souvent, après il y a eu des talks avec Aspiration, donc toutes les semaines pendant 6 mois. Et à chaque fois que j'étais près d'elle et qu'on attendait pour aller la voir, il y avait tout de suite, on était immergé dans cette dimension psychique hein, de bien-être, de calme, de paix. Et donc, après, on revenait dans la réalité concrète, avec toutes les difficultés. Et donc, à un moment, je lui ai écrit, j'ai dit, mais mère, comment je peux garder cet état que je vis quand je viens te voir ou même attendre à la porte pendant des heures, mais comment le garder dans l'action quotidienne? Et donc, elle m'a répondu, je suis avec toi depuis une éternité pour l'éternité. Et là, d'un seul coup, ça a bouleversé, c'était une réponse qui me reportait à ma première prise de conscience quand on réalise l'être psychique, voilà, on a la sensation d'avoir été toujours et d'être pour toujours. Et là, c'est un peu la même. Et là, je me dis, mais mère, en fait, mon psychique, c'est une émanation de mère. Tu vois? Et cette prise de conscience, ça a été extrêmement fort. Alors, je me suis dit, bon, puisque mère est avec moi, j'essaie. Alors, je fais des méditations pendant des heures et des heures pour essayer de... Et puis je me disais, mais j'ai besoin que le divin soit là, mais physiquement, je veux le sentir, pas seulement dans des expériences privilégiées, mais... Et puis là, j'ai commencé à sentir dans mon corps comme des pulsations d'harmonie, de bien-être, qui partaient réellement de l'intérieur de mon corps, du cœur en fait. Et c'était vraiment physique. Et là, j'ai compris que c'était la réponse. Qu'en fait, mon corps répondait, et sur mon monde psychique répondait par ses pulsations de bien-être, je suis là, vis, vis ce que tu as à vivre, je suis là. Et donc, ça s'est intégré à ma vie.
Ça fait penser à cette conférence, j'y suis pas allé, mais de Laurence, là, hein, qui parle du cœur, en fait, hein, puisque finalement, les traditions situent l'être psychique dans une dimension qui est derrière le cœur en tant qu'organe, hein, donc sans doute une pulsation. Tu as toujours ce genre de...
Je l'ai moins confirmé qu'à ce moment-là où il y avait vraiment une grande intensité dans les deux côtés, hein, donc dans les difficultés et en même temps dans les restitutions de très belles expériences. Mais c'est comme comment dirais-je, pour moi il se manifeste comme des évidences. L'évidence à travers la nature, le soleil, le vent, le bien-être qui en résulte, dans la difficulté, parce que depuis 50 ans, je suis toujours dans le travail et dans les relations quelquefois difficiles aussi avec comme une entreprise en fait. Et dans ces difficultés, j'ai compris que il fallait creuser, trouver aussi cette dimension-là, que toutes ces difficultés étaient un levier pour nous faire grandir intérieurement. Donc, si tu veux, ces prises de conscience, c'est comme si l'incarnation, le psychique, reliait plein de choses. Mais ce n'est pas des expériences transcendantales.
Je comprends. Est-ce qu'on peut dire que jusqu'à 20-25 ans, la rencontre de mère et tout ça, c'était, il y avait une forme de nouveauté, d'exubérance et de révélation, et qu'ensuite c'était le travail, quoi.
Exactement.
Ça a été quelque chose moins spectaculaire, on va dire,
oui,
hein, dans le
oui.
quotidien, mais on sait que c'est là et on y travaille, et puis avec une certitude.
Voilà, et ça donne une certitude, ça, c'est comme une évidence, c'est une gratitude, c'est tous ces éléments qui viennent naturellement dans le quotidien et que je reconnais comme étant une émanation de mon psychique. Mmh. Tu vois? À un moment, dans les agendas de mère, elle dit, elle a une expérience en voyant le psychique d'une disciple qui était là, et elle a la révélation que c'est le psychique qui va former le nouveau corps. C'est le psychique qui, en fait, petit à petit, se développe à travers toutes ces expériences d'incarnation, qui devient une entité. Qui en fait, le psychique, c'est tout de même l'âme qui s'individualise.
Absolument.
Donc, en fait, elle prend de plus en plus les caractères de notre incarnation, de notre individualité, jusqu'au point de former un nouveau corps. Et elle dit, c'est une révélation, c'est la première fois qu'elle a cette révélation, et elle dit, le nouveau corps, il va créer sa propre matière.
Avec un nouveau sensorium, avec un nouveau vital, un nouveau...
Voilà, un nouveau ou alors transformé. Donc, puisqu'en fait, a priori, l'évolution, il ne devrait pas y avoir de mort, ou tout au moins une transformation, puisque là, c'est la troisième étape à laquelle, auquel on participe et au tout début. Donc, voilà, quelque part, cette dimension psychique, pour moi, elle est partout, dans l'incarnation, dans la rencontre des autres, dans le partage, dans le sourire, dans la bienveillance, dans toutes ces choses qui sont très simples, mais qui, je crois, sont essentielles pour donner peut-être à notre réalité d'un corps collectif une dimension psychique, tu vois.
Absolument.
Tu vois, et c'est là où je dis le yoga d'Auroville, c'est vraiment le yoga intégral où on doit, petit à petit, où il est demandé, petit à petit, d'avoir cette espèce de reconnaissance que l'autre est soi-même, que on n'est pas séparé. Que, en effet, on est un être spirituel qui s'incarne pour vivre des expériences, et la bienveillance, la bonne volonté, la simplicité, la gratitude, l'authenticité, tous ces éléments sont ceux qui vont former ce corps collectif, en fait.
Alors, c'est intéressant parce que on commence une discussion avec notre être psychique individuel, éventuellement, et puis on continue vers des qualités psychiques, et puis on continue encore vers un champ psychique, en fait, hein, où tout pourrait être inclus. Je reviens un petit peu sur ce parcours d'existence. On peut dire que tu as une certaine tu as eu une certaine chance finalement d'être de pouvoir mettre une présence et un nom et une identité sur un processus. Il y a peut-être parmi nos auditeurs des gens qui sont restés à ce stade de comment dire d'expérience, mais d'incompréhension de ce qui se passe. C'est-à-dire, oui, on sent il y a quelque chose qui se passe. Je suis en connexion avec la nature, tout ça. Mais comment se l'approprier de manière plus consciente, donner du sens à sa propre vie? Est-ce que tu pourrais, est-ce que tu aurais des conseils éventuellement ou par rapport à à ton existence?
Moi, je dirais justement que tout ce qui prend de la valeur d'un acte de reconnaissance de l'autre, comme un frère, comme une entité, qui est très proche dans le cœur. Donc, ces petits actes de la vie, comme sourire à quelqu'un, avoir cette bienveillance, avoir cette bonne volonté, cette volonté d'harmoniser les choses. Tous les éléments, les 12 qualités de mère, en fait, c'est nos outils pour petit à petit, de plus en plus intégrer cette dimension psychique dans notre vie, sans aller automatiquement avoir besoin de chercher des expériences transcendantales, puisqu'en fait, notre yoga actuellement, c'est tout de même de faire descendre cette lumière, cette nouvelle conscience dans notre corps, dans notre vécu quotidien. Donc quelque part, c'est normal que ce soit pas aussi transcendantal, puisqu'en fait on est dedans, on est
On
dedans.
recherche souvent le
Et
spectaculaire, alors qu'en fait, il y a des expériences très simples qui sont chargées de plein de plein de sens et de plein de signification.
quand on dès qu'il y a un beau partage et qu'il y a une reconnaissance de l'autre, un sentiment de proximité, d'amour, je dirais presque. À ce moment-là, on voit bien que ça gonfle. Le psychique, il gonfle.
Il est noué.
Il expanse. Quand on se resserre à travers la peur ou le jugement,
Oui.
hein, on sent bien que ça rétrécit. Pour moi, tout ce qui expanse et qui donne de l'amplitude à la vie, à la relation avec l'autre, contribue à incarner ce monde psychique dans notre
Et
vie quotidienne.
à contrario, tout ce qui le rétrécit est plutôt à essayer de mettre de côté.
Et oui, en particulier les jugements, en particulier tout ce qui sépare, en fait, qui fait que notre mental passe en avant. Non, vraiment, je crois qu'en effet, c'est cette dimension du cœur qui est la plus proche, en effet, du monde psychique et qui s'opère à travers tout ce qu'on sait, hein, de très simple de la vie, de reconnaissance de l'autre, soi-même.
Alors ça nous amène aussi à un autre aspect de ce développement. Donc des expériences mystiques, extatiques en début d'existence, ensuite un travail, une reconnaissance consciente de cette dimension psychique en soi, et puis un travail de labeur de tous les jours jusqu'à en arriver aujourd'hui. Est-ce qu'il y a selon toi, dans ta propre expérience, est-ce qu'il y a des pièges ou alors on en a parlé déjà, hein, la relation avec l'autre, mais des choses dont il faut se méfier ou dont il faut vraiment s'écarter, qui sont vraiment nuisibles au développement de l'être psychique.
Moi, je dirais, dans ma propre expérience, ce qui me fait le plus mal, en fait, c'est les jugements qu'on peut porter les uns sur les autres,
Ça t'arrive encore spontanément de t'observer en train de juger, par exemple?
Alors, ça m'arrive, mais disons que c'est un des points sur lequel vraiment, c'est presque épidermique chez moi. C'est-à-dire que je le ressens, et si je ressens un jugement de la part de quelqu'un ou par rapport à quelqu'un d'autre, je le sens. C'est comme une perception différente qui me rétracte. C'est comme si la vibration du jugement était une vibration qui resserrait. Resserrait,
Ce qui est possible d'ailleurs,
oui,
sur le plan subtil ou
sur
sur
le
le plan
plan subtil,
énergétique.
sûrement, sûrement, absolument. Et donc, il y a toutes ces choses qui font que quand on veut avoir raison, quand on est là pour créer des situations qui sont conflictuelles ou tout au moins participer à ces situations. Pour moi, c'est pas béni, oui, tu vois, c'est pas le fait de tout est rose. C'est le fait qu'il y a des choses qui rapprochent du monde de l'âme, du monde du psychique, et des choses qui en éloignent. Oui. C'est tout simple. Et en fait, chacun a son baromètre, à chacun d'avoir ses propres repères, de les définir. Mais si on est sincère avec soi-même, on le sait très bien, on le sent très bien.
On le sent de manière émotionnelle, physique, comment
tu... Alors, on le sent émotionnellement d'abord, et après, ça va trop loin physiquement, avec tous les contre-coups qu'il peut y avoir, et puis on sent un moment, si on a un peu de lucidité, qu'on est en contradiction, que notre mental est trop actif, mm-hmm. et qu'il est trop en avant dans la situation, donc revenir dans le cœur. Et je crois que ce mouvement constant, en fait, hein, c'est la clé aussi, une des clés fondamentales que nous a donné Mère, hein, c'est à toi, Seigneur, à toi. C'est-à-dire que chaque mouvement de notre incarnation devienne comme une prière qui n'est pas automatiquement formulée par des mots, mais un mouvement d'élévation. C'est-à-dire que c'est choses qui appartiennent à notre nature et qui vibrent, on peut mettre en termes de vibration, qui vibrent bas.
D'accord.
En fait, qui nous font vraiment descendre. Alourdir. Et ben, si on les offre consciemment, ce mouvement de bascule qui est en fait là
les transforme.
Absolument. Et il y a des restitutions de joie. J'ai vécu des choses, mais alors là, qui sont bouleversantes, tu vois, des moments de grande difficulté, vraiment presque. Il m'est arrivé à un certain moment d'avoir presque dans la difficulté envie de quitter ce corps. Et arrivant au bout de cette difficulté et offrant ça, mais d'une façon tripale, je dirais, dans l'instant, d'avoir une restitution de joie débordante, à tel point que je ne pouvais pas la contenir. Et je me suis dit, mais c'est incroyable, ça veut dire qu'en fait, c'est comme disait Mère, c'est comme ça ou comme ça. On peut réellement, par un phénomène de conscience, changer complètement notre mise en rapport et notre relation avec la vie, avec les autres. Alors ça c'est un mouvement de travail intérieur qui est passionnant, tu vois. Mmh. Donc quand tu me disais où est la présence du psychique, c'est là, c'est dans des prises de conscience où tu dis waouh, ça marche tout d'un coup, il y a comme une alchimie de la vie et une alchimie de la conscience que tu vois dans les faits. Et là le psychique, il participe, il est content. Tu vois, mais il y a d'autres éléments aussi qui interviennent dans cette.
Et tu en viens presque à remercier en fait les circonstances et les événements de t'avoir mis en présence de ça, puisque tu n'aurais jamais pu avoir une telle présence de joie si le challenge n'avait pas été aussi fort,
oui.
aussi important.
Oui, oui, oui.
Hein, donc
oui,
il y a une proportion oui, oui. en fait de.
Oui, oui, sans chercher les difficultés. Oui, oui. Évidemment, elles viennent suffisamment à nous pour les accueillir d'une autre façon.
Bien, ben écoute, je crois qu'on arrive au terme de notre conversation. Est-ce que tu vois quelque chose d'autre que tu aimerais partager?
Bon, ce que j'aimerais partager, c'est peut-être par rapport à la situation actuelle d'Auroville, c'est de demander aux Auroviliens de réaliser ça, en fait, dans leur, c'est, on projette trop dans l'extérieur des solutions ou des volontés de dire c'est bien ou c'est mal. Commençons par faire ce travail vraiment intérieur d'offrande de tout ce qui nous apparaît comme vraiment totalement incongru, douloureux. Ce travail d'alchimie qui nous est demandé, en fait, c'est vraiment un travail que chacun d'entre nous, si on le fait, Auroville va basculer et le pouvoir qui va être donné à Auroville va être d'une puissance incroyable.
Ouais.
Aucun gouvernement, aucune force extérieure ne pourra résister. Ça, c'est clair. C'est très clair pour moi, vraiment. Et je pense que si vraiment chacun prend conscience de ça, que étant des apprentis Auroviliens, c'est tout de même, Mère disait, pour être un vrai Aurovilien, il faut avoir fait la découverte intérieure. Donc, on en est tout à fait au début, hein.
Ouais.
Et déjà cette prise de conscience de mettre tout notre effort à ça et d'essayer de sortir des limitations, de sortir des jugements, de sortir de tout ça et de travailler vraiment et automatiquement d'avoir ces gestes simples d'accueil, de sourire, d'entraide évidemment, enfin, tout ce que Mère demandait aussi à Auroville d'être, c'est-à-dire une société fraternelle où les gens créent des relations entre eux qui sont... Elle m'avait dit un jour, alors qu'on avait beaucoup de difficultés, c'était pendant les entretiens avec Aspiration, alors qu'elle demandait, elle nous avait fait un exercice pour dire quels sont les Auroviliens, d'après vous, qui n'ont pas leur place à Auroville. Parce qu'on avait beaucoup de problèmes, mm-hmm. évidemment, de cet ordre-là. Et moi, il y en avait un en particulier qui, pour moi, ne cochait aucune case.
On n'aurait jamais dû être là.
Exactement. Et donc, je lui dis, quand vient mon tour, je lui dis, ben voilà, cette personne, pour telle et telle raison. Elle me regarde et me dit, mais est-ce que tu connais son âme? Et je suis resté bouche bée. Et donc, voilà, et à la suite de ça, elle me dit, mais c'est chacun un parcours d'âme, c'est ce qui est important. On ne sait pas pourquoi cette personne ou cette personne est là. Donc, il faut que vous appreniez à vivre à ce niveau-là. Et là, j'ai vraiment réalisé qu'Auroville, c'était vraiment totalement autre chose que tous les systèmes actuels sur la Terre. C'était d'autres critères et d'autres éléments qu'il nous fallait mettre en place, en fait, dans notre corps, dans la réalité de notre corps collectif, tu vois. Mmh. C'est-à-dire la présence de l'âme, la présence du psychique, qui était en fait le critère pour pouvoir dire si quelqu'un a sa place ou pas. On n'a même pas à le dire. Ah oui, elle a rajouté une chose. Si vous arrivez à créer l'atmosphère propice, les gens qui n'ont pas leur place, ils partiront d'eux-mêmes. Vous n'avez pas besoin de les faire partir, ils partiront d'eux-mêmes. Et ça, c'était vraiment fort.
Très bien. Je te remercie beaucoup, Maguanaz.
Thank you for listening to this testimonial. If you would like to take part in this project on the inner being, or if you have any questions or comments for our team or participants, please feel free to contact us using the email at the bottom of this webpage.
This is Auroville Radio, voices from the City of Dome.